œuvre de jeunesse de Howard Philip Lovecraft, Le monstre dans la caverne ou La bête de la caverne, selon les éditions, possède déjà une narration efficace, montée progressive, du suspense et révélation finale pour le moins troublante.
L'horrible conclusion qui s'était progressivement imposée à mon esprit, rétif et embrouillé, était désormais une terrible certitude. J'étais perdu, totalement, désespérément perdu dans le vaste labyrinthe de la caverne du mammouth. J'avais beau tourner et virer, ma vision limitée ne parvenait pas à percevoir le moindre détail susceptible de me ramener vers la sortie. La raison m'interdisait d'espérer plus longtemps revoir la lumière bénie du jour ou contempler les belles collines et vallées du monde extérieur. C'était fini. Pourtant, influencé par une vie consacrée à étudier la philosophie, je n'étais pas peu satisfait du flegme dont je faisais preuve. J'avais souvent lu que les victimes de ce genre de situation cédaient à la panique, mais je ne ressentais rien de tel. Au contraire, je fus gagné par le calme dès qu'il devint certain que je m'étais égaré. Même la pensée que je m'étais sans doute aventuré trop loin pour que l'on me retrouve ne suffit pas un seul instant à me faire perdre mon sang-froid. Si je devais mourir, pensais-je, cette effrayante mais majestueuse caverne ferait un aussi bon tombeau que toutes les sépultures que l'on trouve dans les cimetières. Une idée qui, au lieu de me désespérer, m'apporta du réconfort. Je mourrais de faim. Cela ne faisait aucun doute. Dans de telles circonstances, certains devenaient fous. Toutefois, j'étais convaincu que je ne finirais pas comme cela. J'étais l'unique responsable de mon malheur, car c'était de mon propre chef et à l'insu du guide que je m'étais écarté de notre groupe de touristes. Après avoir erré pendant plus d'une heure dans les passages interdits de la caverne, je m'étais montré incapable de retrouver le chemin tortueux parcouru depuis que j'avais abandonné mes compagnons. Ma torche commençait déjà à faiblir. Bientôt, je serais cerné par les ténèbres absolues, presque palpables, des entrailles de la terre. Alors que je me tenais dans la lumière déclinante et tremblotante, je me demandais machinalement quelles seraient les circonstances exactes de mon trépas. Je me rappelais avoir entendu parler d'une colonie de tuberculeux qui avait décidé d'habiter ces gigantesques grottes pour se refaire une santé à l'air pur, prétendument salubre, du monde souterrain avec sa température uniforme et son atmosphère paisible, mais avait trouvé la mort dans des circonstances aussi étranges qu'effroyables. En passant avec les autres touristes devant les tristes ruines de leur cabane branlante, je m'étais demandé quelles séquelles étranges un séjour prolongé dans cette immense caverne silencieuse aurait sur quelqu'un d'aussi sain et vigoureux que moi. Je compris avec gravité que j'allais bientôt avoir la réponse à mes interrogations, à condition que le manque de nourriture ne m'arrache pas trop tôt à cette vie. Alors que les derniers rayons intermittents de ma torche cédaient le pas à l'obscurité, je résolus de faire tout mon possible pour me tirer d'affaire. Aussi, je me mis à hurler, à plein poumon, dans l'espoir vain que la clameur attirerait l'attention de mon guide. Pourtant, alors même que je criais, j'étais intimement persuadé de l'inutilité de la tentative, et que mes appels, amplifiés et répercutés par les innombrables parois du noir dédale dont j'étais prisonnier, ne tomberait dans aucune oreille, à part les miennes. Tout à coup, je sursautais. J'avais l'impression d'entendre approcher des bruits de pas étouffés sur le sol rocailleux. Était-ce déjà la délivrance? Mes atroces appréhensions avaient-elles été sans objet? Le guide était-il parti à ma recherche dans ce labyrinthe de calcaire après avoir remarqué mon absence anormale? Alors que ces questions me trottaient dans la tête, j'étais sur le point de me remettre à crier afin de précipiter mon sauvetage, lorsque, soudain, la jubilation fit place à l'horreur. Mon ouïe, fine de nature et rendue plus sensible encore par le silence absolu qui régnait dans cette caverne, apprit à mon cerveau embrumé, et pour ma plus grande terreur, que ses pas n'avaient rien d'humain. Dans le silence surnaturel de ces régions souterraines, les bottes du guide auraient produit des bruits secs et incisifs. Les pas que j'entendais étaient feutrés, furtifs, comme ceux d'un félin. D'ailleurs, en tendant l'oreille, je parvins à distinguer quatre pattes et non deux. J'étais à présent convaincu que mes propres cris avaient réveillé et attiré une bête sauvage. Pourquoi pas un lion des montagnes, lui aussi égaré dans cette grotte? Peut-être, songeais-je, le Tout-Puissant avait-il choisi de m'accorder une fin plus rapide et clémente que la mort par inanition. Toutefois, l'instinct de conservation, qui ne dort jamais bien profondément, s'éveilla en moi. Échapper au péril imminent aurait sans doute pour seul résultat de me faire connaître une mort terrible et lente, mais j'étais néanmoins déterminé à vendre ma peau le plus chèrement possible. Si bizarre que cela puisse paraître dans mon esprit, ce visiteur ne pouvait avoir que des intentions hostiles. Aussi me tins-je parfaitement silencieux, dans l'espoir qu'en l'absence de bruit pour la guider, la bête inconnue se perdrait comme moi et passerait son chemin. Malheureusement, il devait en être autrement, car les étranges bruits de pas continuèrent à approcher sans même ralentir. L'animal, à l'évidence, avait dû flairer mon odeur qui, dans une atmosphère aussi dénuée de distraction, devait se sentir de très loin. Voyant par conséquent que j'allais devoir me défendre contre une attaque mystérieuse et invisible, je tâtonnais dans le noir à la recherche des plus grosses pierres possibles, le sol des environs étant jonché de fragments rocheux. J'en pris une dans chaque main et attendis avec résignation l'attaque inévitable et les hideux bruits de pas d'approcher. Le comportement de la créature ne laissait pas de m'intriguer. La plupart du temps, il me semblait qu'elle marchait à quatre pattes, avec un singulier manque de coordination entre membres postérieurs et antérieurs. Néanmoins, à des intervalles aussi brefs qu'irréguliers, j'avais l'impression que deux pattes seulement étaient engagées dans le processus de locomotion. Je me demandais à quelle espèce j'allais avoir affaire. Il devait s'agir de quelque bête infortunée qui, pour avoir laissé sa curiosité l'entraîner dans cet effroyable labyrinthe, avait dû passer sa vie prisonnière dans ces innombrables recoins. Sans doute se nourrissait-elle des poissons aveugles, des chauves-souris et des rats peuplant les souterrains, mais aussi des poissons ordinaires, aspirés à chaque crue de la Green River, qui devait être reliée aux eaux de la caverne par quelque canal invisible. Je trompais l'angoisse de l'attente en faisant les hypothèses les plus grotesques sur les transformations que la vie souterraine avait pu provoquer dans le corps de la bête, non sans repenser à la hideur que la tradition locale prêtait aux tuberculeux retrouvés morts, après un long séjour dans la caverne. Je m'aperçus soudain que, même si je tuais mon adversaire, je ne verrais jamais de quoi il avait l'air, puisque ma torche était depuis longtemps éteinte et que je n'avais pas la moindre allumette sur moi. La tension devenait insoutenable. Mon imagination dérangée faisait apparaître dans les ténèbres autour de moi des silhouettes effrayantes et hideuses qui semblaient réellement venir se coller à moi. Les bruits de pas étaient plus proches, toujours plus proches. Il me semblait que j'allais me mettre à hurler, mais même si j'avais manqué de volonté au point de me laisser aller à commettre pareille erreur, ma voix ne m'aurait sans doute pas obéi. J'étais pétrifié, comme enraciné sur place. Je me demandais si, au moment crucial, mon bras droit serait encore capable de lancer son projectile sur l'ennemi. Le tap régulier des pas était proche, très proche. J'entendis que l'animal avait la respiration haletante, et malgré ma terreur, je compris qu'il avait dû parcourir une distance considérable et que cela l'avait fatigué. Tout à coup, le charme se rompit. Ma main droite, guidée par cette ouïe qui ne m'avait jamais fait défaut, lança de toutes ses forces le bloc de calcaire anguleux en direction du point de l'obscurité d'où émanaient les bruits de respiration et de pas. Je précise avec fierté qu'il faillit atteindre sa cible, car j'entendis la créature faire un bond en arrière. Elle parut hésiter. Ayant rectifié mon tir, je lançai mon second projectile avec la plus grande réussite, puisque cette fois, j'entendis la bête s'effondrer au sol, puis y rester, inerte. Presque submergé par l'immense soulagement que je ressentis, je dus m'appuyer contre la paroi derrière moi. Je sus que je n'avais fait que blesser l'adversaire, car j'entendais toujours ses halètements bruyants. Je n'avais plus aucune envie de l'examiner. Un sentiment de peur, irraisonné, confinant à la superstition, avait fini de s'emparer de mon esprit, m'empêchant d'approcher la créature, mais aussi de continuer à la bombarder de pierres pour l'achever. Je m'enfuis à toutes jambes dans la direction d'où je venais, pour autant que je pouvais l'estimer, étant donné l'état de panique dans lequel je me trouvais. Soudain, j'entendis un bruit, ou plutôt une suite régulière de bruits. L'instant d'après, ils se changèrent en une série de claquements métalliques aigus. Cette fois, le doute n'était pas permis, c'était le guide. Je criais, hurlais, piaillais de joie en regardant approcher sous les voûtes au-dessus de moi le faible reflet que je savais produit par une torche. Je courus à sa rencontre, et avant d'avoir compris ce qui m'arrivait, me retrouvai étendu par terre aux pieds du guide, enlaçant ses bottes et, malgré la réserve qui fait ma fierté, balbutiant bêtement le récit décousu de mon épouvantable aventure, tout en étouffant mon auditeur sous une montagne de remerciements. Enfin, je recouvrai à peu près mon état normal. Le guide avait remarqué ma disparition lorsque le groupe avait regagné l'entrée de la caverne et, grâce à son sens inné de l'orientation, avait entrepris de passer au crible tous les passages dérobés partant de l'endroit où il m'avait parlé pour la dernière fois. Il lui avait fallu environ 4 heures pour me retrouver. Lorsqu'il eut terminé son propre récit, je repensais, enhardi par sa torche et sa compagnie, à l'étrange bête que j'avais blessée et qui n'était pas très loin dans l'obscurité. Je suggérais que nous allions voir, la lumière aidant, à quoi ressemblait ma victime. N'étant plus seul, je trouvais le courage de retourner sur les lieux de ma terrible expérience. Nous repérâmes bientôt sur le sol un corps blanc, plus blanc encore que le calcaire scintillant. Nous avançâmes prudemment et poussâmes à l'unisson une exclamation de surprise, car de toutes les créatures contrefaites que nous avions eu l'occasion de voir au cours de notre vie, celle-ci était bien la plus insolite. Il semblait s'agir d'un grand singe anthropomorphe, peut-être échappé de quelque ménagerie itinérante. Sans doute en raison d'un très long séjour dans ces noirs souterrains, il avait le poil blanc comme la neige, mais aussi étonnamment rare. Il était presque glabre, sauf sur le crâne, où une crinière longue et abondante lui tombait en cascade sur les épaules. Son visage ne nous était pas visible, car il était pour ainsi dire allongé, face contre terre. L'angle des membres était tout à fait singulier, mais expliquait l'alternance que j'avais précédemment remarquée entre bipédie et quadrupédie. Au bout de ses doigts et de ses orteils poussaient de longues griffes semblables à celles d'un rat. Ses pattes n'étaient pas préhensibles, ce que j'attribuais, comme sa pâleur généralisée et presque surnaturelle si caractéristique, à son séjour prolongé dans cette caverne. La bête ne semblait pas avoir de queue. Elle respirait très faiblement désormais. Le guide avait sorti son pistolet avec l'intention évidente de la tuer, mais elle émit un son si soudain que mon compagnon lâcha son arme. Il m'est difficile de décrire la nature même du dit son, qui n'avait rien de commun avec les grognements des espèces simiesques connues. Je me demandais si cette bizarrerie n'était pas due à un silence complet et prolongé, rompu par les sensations qu'avait provoqué l'arrivée de la lumière, que la bête n'avait pas dû revoir depuis le jour où elle avait pénétré dans la caverne. Le son en question, que je décrirais sans conviction comme une sorte de jacassement grave, se poursuivait faiblement. Tout à coup, un fugace sursaut d'énergie parcourut le corps de la bête. Les pattes furent agitées par une convulsion et les membres se contractèrent. Dans un soubresaut, le corps blanc roula sur lui-même, si bien que son visage se tourna dans notre direction. Pendant quelques instants, je fus tellement saisi d'horreur à la vue de ses yeux que je ne remarquai rien d'autre. Ils étaient noirs, ses yeux, noirs de jais, ce qui contrastait hideusement avec la peau et les cheveux blancs. Comme d'habitude chez les créatures troglodytiques, ils étaient profondément enfoncés dans leurs orbites et complètement dépourvus d'iris. En y regardant de plus près, je vis que le faciès de la bête était moins prognate que chez le singe moyen, mais aussi infiniment moins poilu. Le nez, quant à lui, était bien marqué. Alors même que nous étions captivés par cette vision étrange, les lèvres épaisses s'ouvrirent pour laisser échapper plusieurs sons, après quoi la mort emporta la créature. Le guide saisit la manche de mon manteau en tremblant si violemment que sa torche, agitée de soubresauts, projetait de drôles d'ombres mouvantes sur les parois. Je restais immobile, crispé, sans pouvoir détacher du sol mon regard horrifié. La peur me quitta et fit place à l'étonnement, au respect, à la compassion et à la révérence. Car les sons émis par la chose qui gisait morte sur le calcaire nous avaient révélé l'incroyable vérité. La créature que j'avais tuée, l'étrange habitant de cette caverne insondable, était, ou avait un jour été, un homme.